Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture, et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
Donc je reçois ce midi Florent Tillon qui est venu nous présenter la journée et la veillée électorale pour le référendum en Nouvelle-Calédonie qui aura lieu ce samedi 3 octobre à la ferme du Goutaillou à Tarnac. La Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, c'est la France, encore, mais ici, en métropole, on en connaît peu de choses. Il y a comme des trous dans les manuels scolaires à ce sujet. Si tu es d'accord, Florent, j'aimerais un petit rattrapage rapide d'histoire-géographie à propos de la Nouvelle-Calédonie. La géographie, on est vraiment à l'autre bout du monde, là. Ouais,
17 000 kilomètres. 17 000 kilomètres entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, quoi, grosso modo, quoi, pour donner une idée.
Ouais, on met plus de 12 heures en avion, quoi.
On met 26 heures en avion. On met 2 jours pour y aller.
Ok. Ok, pas mal. Donc c'est ouais, on est vers l'Australie, quoi, même encore plus loin, quoi. 270 000 habitants, une densité de 15 habitants au kilomètre carré. Ça ressemble un peu à la Creuse, quoi. Il y a un truc au niveau de la densité, on est. Et voilà, il y a pas trop d'habitants. On n'est pas trop serrés les uns contre les autres. La superficie des îles, on va dire, parce qu'il y en a plusieurs, même s'il y a une île principale, c'est à peu près la superficie du Limousin, d'ailleurs. Tu peux nous faire une petite carte postale, nous faire voyager un peu. Toi, tu as été là-bas, hein, tu connais.
Alors moi, je suis né là-bas et j'ai grandi jusqu'à 13 ans. Ensuite, je suis arrivé en France en plein bicentenaire de la Révolution française, donc c'était un peu choc comme retour, quoi. Et j'ai pas choisi de revenir, donc il y a un petit côté exil aussi, c'est-à-dire quand on part d'un pays, c'est quand même un peu toujours douloureux, parce qu'on finalement on est situé géographiquement aussi, et puis au niveau des plantes, des végétaux, de ce qui t'entoure, quoi. Donc ça, c'était un peu dur. Mais c'est pas de moi dont il faut parler, c'est de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, ben, je sais pas par où commencer. C'est une île qui a donc été découverte, entre guillemets, je pense, fin 18e, si je me trompe pas. Mais surtout qui a été colonisée par la France mi-19e, et avec l'acte de prise de possession en 1800. Je sais plus, je risque de dire une connerie, 1853, je crois.
Ouais. Mais là, déjà, je voulais que tu nous plonges un peu, qu'on s'imagine un peu les paysages, déjà, un peu la géographie dans un premier temps.
Alors, pourquoi ils ont appelé ça la Nouvelle-Calédonie? C'est parce que, justement, en tout cas dans le nord-est, c'est très comme ça. Effectivement, c'est des montagnes très vertes et dans les hauteurs pas très. Avec pas beaucoup d'arbres. Et puis avec des rochers, des cascades. Donc, ça a fait penser à la Calédonie, donc l'endroit d'origine, en tout cas l'endroit que connaissait le navigateur qui était James Cook.
C'est l'ancien nom de l'Écosse, la Calédonie.
C'est ça, ouais, ça ouais. Ou une région, je crois. Et oui, c'est vrai qu'il y a des bouteilles d'eau qui s'appellent Calédonie qui sont fabriquées là-bas. Je trouvais ça assez drôle quand j'ai vu ça passer. Mais les paysages, donc c'est le nord-est, mais sinon la côte ouest est plus sèche que la côte est, qui est plus humide. Et bah, c'est des cocotiers, des bananiers, c'est très luxuriant. Dans la forêt, la nuit, c'est parfois assez effrayant parce qu'il y a beaucoup de bruit, en fait. Beaucoup, beaucoup de bruit dès qu'on s'éloigne, qu'on est à la campagne, bien sûr. Et quant à la densité de population, là je parle plus de Nouméa. Nouméa, c'est une ville où il y a des quartiers blancs, il faut bien le dire, et des quartiers plus kanak. Donc c'est quand même pas la ségrégation d'Afrique du Sud là non plus, mais il y a quand même quelque chose de cet endroit-là qui est un peu étrange. Et notamment la densité de population la plus élevée, c'est celle des kanak dans les tours, ou des océaniens, des travailleurs et des immigrés, quoi. Et du coup, ben, là, il y a une densité avec des loyers très très chers, parce que c'est aussi un des problèmes là-bas, c'est que la vie est scandaleusement trop chère, quoi. C'est un sachet de thé, c'est 20 euros quoi, au lieu de 3 euros, c'est des exemples comme ça. Un chèvre, c'est 10 euros, fromage de chèvre. Donc, quand on est au SMIC français, on peut comprendre que si en plus on a des loyers, c'est difficile, quoi. Bon, alors ça, c'était le social. Voilà, et sinon, évidemment, les lagons, qui sont très impressionnants et qui sont très réputés, c'est la réputation de là-bas, donc des eaux turquoises avec des récifs qui font une espèce de piscine, en fait, où il n'y a pas de vagues, à part quelques endroits où les surfeurs viennent justement parce qu'il y a des vagues, mais sinon c'est souvent très agréable, la plage, même si les coquillages que j'avais connus dans mon enfance ne sont plus trop là. il y a déjà, de toute façon, même en tant qu'enfant, j'avais déjà commencé à repérer des choses qui commençaient à disparaître. Et ça, c'est vraiment l'enjeu principal, je pense, actuellement, c'est le rapport à la culture et à l'écologie, quoi. C'est ça le truc dont on peut parler aussi plus tard. Est-ce que le tableau est bon ou géographiquement?
Ouais, c'est pas mal.
Que je fasse des bruits d'animaux.
Là, le climat, on vient de sortir de l'hiver austral, parce qu'on est de l'autre côté du globe. Il va y avoir ça va bientôt être l'été. Il y a une sorte de petite saison intermédiaire un peu sèche, c'est ça, là, qui commence.
Oh, je connais pas trop. Les Kanaks disent qu'il y a 5 saisons là-bas.
5 saisons.
Et je sais pas trop dans laquelle ils sont. Bon, grosso modo, l'hiver, c'est l'été pour nous et l'été pour nous, c'est l'hiver. Là-bas.
Ouais, on va simplifier comme ça. Ouais, c'est mieux. Bon, alors, on parle un peu d'histoire. Donc, les premiers hommes avant les Européens, ils sont arrivés il y a 3-4 000 ans à peu près. Là, c'est un peuplement assez tardif hein, quand même.
Il y a des... Bah, en fait, ça, c'est la science archéologique. C'est-à-dire on dit, tiens, ils sont arrivés à moins 1000, mais aujourd'hui, apparemment, il y a des... On ne sait pas trop, peut-être qu'en fait, ils sont arrivés il y a plus longtemps. Moins 4000 ou des trucs comme
ça.
Ouais,
moi, c'est ce que j'ai noté, là, dans le...
Ouais, moins 1000, c'est le consensuel actuel. D'accord. Mais il y a des chercheurs qui disent que c'est beaucoup plus vieux que ça, etc., etc.
Ok. Et donc, les premiers Européens, donc c'est Cook en 1774 qui vient... Moi, je trouve quand même que c'est bizarre qu'il appelle ça la Nouvelle-Calédonie. Moi, ça me paraît un peu... On a l'impression qu'il n'est pas trop descendu du bateau, quand même, quoi.
Il y a la Nouvelle-Zélande.
C'est vite fait, quoi.
Oui. Alors, je pense qu'il est passé près des côtes nord.
Ouais.
Et que ça lui a donné l'impression de voir son pays d'origine. Peut-être ça lui a fait une émotion forte, à part ça. Hein.
Ok.
effectivement, Nouvelle-Zébride, Nouvelle-Zélande, Nouveau-Mexique, etc. Non, ça sent pas autre chose.
Ça me fait penser aussi au mec qui arrive dans le bayou, dans le delta du Mississippi, et qui dit « Ah, mais ça ressemble à Orléans ici, donc je vais appeler ça la Nouvelle-Orléans !» Bon, bref. Il y a quelques Français qui sont passés avec des noms célèbres, beaucoup plus célèbres que les premiers Kanaks.
Mais il y a la Nouvelle-Aquitaine
Oui. Ah oui. Ah, il y a la Nouvelle-Aquitaine Où ça? Ah oui.
Bah ici.
Ah oui. Ah oui. Oui, mais là, c'est pour d'autres raisons.
Oui.
Donc, il y a la Pérouse qui sont passés par là, Dumont, d'Urville. Alors, les Français, ils ont eu une idée saugrenue de s'installer là-bas. L'idée, c'était quand même de faire une prison à la base, en fait. C'était pas spécialement pour aller faire des cultures de, je ne sais pas, de café ou des choses comme ça. Non, c'est pour faire une prison. Je trouve quand même ça dingue, quoi, cette idée d'aller... poser son drapeau pour en faire une prison, quoi, sur notre territoire.
Bah, en fait, il faut replacer, je pense pour mieux comprendre, il faut replacer le contexte colonial, enfin, en tout cas, la stratégie coloniale, qui est à peu près la même pour toutes les îles du Pacifique, de ce coin-là, quoi, que ce soit Wallis, Futuna, Tahiti, ou les Vanuatu, etc., nos anciennes Nouvelles-Hébrides. La stratégie est toujours un peu la même, c'est d'arriver, de rester un temps, de repartir 10 ans, 10, 20, un peu moins, ça dépend, en moyenne, qu'on va dire 10 ans, et généralement, le scénario est toujours le même, alors c'est pas généralement, c'est toujours le même scénario, c'est que quand ils reviennent, il y a 90% des gens qui sont morts, à cause des maladies.
Ouais.
Donc, on peut se poser la question de savoir s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, puisqu'ils partent 10 ans, le temps qu'ils reviennent, et qu'il n'y a plus personne, donc il y a des procès, hein, qui sont intentés pour crimes contre l'humanité à l'Occident, qui, lui, à chaque fois, plaide non coupable et innocent. On ne savait pas... Ce qui est étrange quand tu vois que, comme tu disais, ça faisait 500 ans aujourd'hui, donc ça faisait déjà 350 ans.
Faut bien situer là, l'annexion, je sais pas comment on dit, l'annexion par, en tout cas la France, on est sous Napoléon III en 1850, 53 exactement. Mm-hmm. Donc on est 350 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il s'est passé du temps, on a découvert plein d'îles. Là, c'est un peu les dernières îles qu'on trouve. Hein. Après, il reste plus que l'Antarctique, quoi. Il reste plus grand chose, quoi.
Et c'est intéressant d'ailleurs que ça soit aussi, a priori d'après l'archéologie, aussi le dernier endroit sur Terre qui a été habité par des humains.
Oui.
Il y a une sorte de truc, d'histoire qui se poursuit, tu vois, d'endroit un peu tardif, quoi, par rapport à la colonisation, de l'homme d'abord, et puis des États ensuite.
C'est pas facile d'accès, hein.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en tout cas, surtout depuis l'endroit où on vient. Et donc, pour continuer sur ça, effectivement, non seulement ils avaient 350 ans d'expertise, qu'à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, les autochtones mouraient. Donc ça, ils ont quand même eu le temps de s'en rendre compte. Et en plus, quand ils arrivent en 1853, il y a déjà eu Lavoisier et Pasteur. Donc ils ont déjà, ils savent déjà ce que c'est qu'un microbe, que la pandémie, ils ont déjà dit aux gens qu'il fallait se laver les mains, ils avaient déjà enlevé les cimetières des villages, donc ils étaient à mon avis assez conscients de ce qu'ils faisaient. Enfin, en tout cas moi c'est mon hypothèse, je serais plutôt du côté de ceux qui attaquent pour crimes contre l'humanité, en utilisant la maladie. Bon, pour le coup les gestes barrières n'étaient pas vraiment respectés quand ils arrivaient sur place et qu'ils repartaient pour 10 ans quoi. Bon bref, ça c'est à voir quoi, il y a des gens qui travaillent là-dessus et ça, à mon avis c'est un sujet passionnant. Surtout à l'heure actuelle, quand on parle de sanitaire et qu'ils veulent absolument le bien de tout le monde, etc.
Et ça, en 1853, c'était déjà fait, on va dire, le nettoyage sanitaire entre...
Alors donc, justement, ils reviennent, avec beaucoup de gens en moins qui ont vécu une sorte d'apocalypse. Imaginez-vous vivre à 1000, d'un coup, vous vivez à 100. On ne s'organise pas de la même manière, on ne voit pas le monde de la même manière, c'est vraiment très très dur. Et du coup, ils arrivaient avec des prêtres qui disaient « nous allons vous sauver ». Et en fait, ça marchait assez bien. Et alors que ce soit protestant ou catholique, après ils se divisaient le machin, et derrière les prêtres, il y avait l'armée, et derrière l'armée, il y avait les bagnards. Et les bagnards, en fait, ils étaient là pour... Les prêtres étaient là pour les convertir, et les faire accepter l'Occident, disons, les Lumières, tout ça, l'universalisme occidental. Derrière, quoi, disons, hein, même si ça passait par le catholicisme. Mais rappelons que catholique en grec universel se dit catholicos, donc on n'est pas loin. et les bagnards, en fait, leur fonction, c'était de... Bah déjà, de ne plus être sur le sol français, parce que c'était en général des gens subversifs, y compris des Algériens, hein, qui ont été envoyés là-bas, pas loin des communards, à peu près à la même période, des subversifs. Et donc, ces subversifs n'étaient plus dans les endroits où ils gênaient. Et en plus, après, on leur donnait une terre, on leur donnait rédemption, avec une terre à cultiver, et en grosso modo, ce sont les premiers ouvriers, en fait, de la colonisation. Mais c'est... Et après, le se met en place les industries, assez rapidement, quand même, avec Rothschild, qui va ouvrir les premières... Enfin, je crois que c'est un mec qui ouvre, et puis qui se fait racheter direct, enfin, ça marche, et puis du coup, le petit mec de départ, c'est un peu comme McDo, toutes ces histoires-là, où les petits mecs de départ se font défoncer, et puis il y a les gros qui arrivent et qui disent « c'est nous le business », quoi. Et ça va pas se développer tant que ça, ça va vraiment être minier.
Et c'est vraiment mine de nickel.
Mine de nickel, cobalt, il y a pas mal de choses, mais il y a surtout du nickel. Ouais. Et le nickel, donc, c'est dans les batteries de téléphone, c'est dans nos pièces de monnaie, c'est dans les têtes de balles, pour le cobalt, ça pour le coup. Le nickel, c'est dans les moteurs, je ne serais pas spécialiste, mais il y en a à peu près partout, en fait, du nickel kanak, qui nous entoure.
Et au niveau agriculture, élevage, il n'y a pas eu de...
Alors les premiers bagnards qui étaient donc de fait les premiers colons malgré eux, oui il y avait de l'élevage, de l'agriculture, mais peu à peu, mais pour la survie locale.
Ouais, c'était pas quelque chose, enfin une production pour la France quoi.
Mais c'est des montagnes aussi, hein. C'est beaucoup des montagnes de nickel en fait, il n'y a pas beaucoup de plaines. Okay. Ouais. Et les rares plaines qui justement ont été plutôt colonisées par les occidentaux ou descendants de bagnards aujourd'hui, qu'on appelle les caldoches. Mais bon, tout ça a une vieille histoire, donc ça se mélange et c'est de moins en moins précis comme terme. Mais voilà, les caldoches, c'est les descendants des bagnards qui sont souvent dans l'agriculture, souvent à élever du bétail sur la côte ouest. Okay. Plus sèche. Et voilà. Je sais plus où on en était, mais on peut continuer comme ça.
Ouais, bah...
Ah oui, et du coup, le développement de peuplement, par contre, il y a vraiment une décision qui est prise en 72, qui est très importante, le plan Mesmer, du nom du type qui a dû faire le plan, qui était de donner vraiment beaucoup d'aide, d'intérêt, des salaires indexés, un bon niveau de vie, quoi, aux fonctionnaires, profs, gendarmes, ou fonctionnaires dans la fonction publique, de tout ce qu'on peut imaginer, facteurs, etc., pour attirer des Occidentaux, pour rendre le Kanak minoritaire dans son propre pays. Et c'est pour ça, du coup, que organiser un référendum après avoir rendu minoritaire le peuple Kanak, c'est un peu rigolo. Et c'est pour ça qu'il y a des contreparties qui ont été données, d'en faire trois, et en plus de geler le corps électoral occidental depuis 1998.
Ok. On va y revenir au référendum un peu plus en détail. On peut noter qu'en 1878, il y a une première révolte qui a lieu à peu près, j'avais noté ça. Et j'ai noté aussi qu'en 1931, il y a eu l'Expo coloniale. Là, on parle ces derniers jours du cirque et des animaux et des conditions des animaux dans les cirques. Là, en 1931, à l'Expo coloniale, c'était des êtres humains, tout simplement, qui étaient dans des enclos, qu'on pouvait voir comme on voit les animaux aujourd'hui dans les cirques. C'est assez atroce, ça fout un peu les...
C'est glacial.
Ouais, c'est glacial. Et j'ai un petit document sonore à vous faire écouter qui était enregistré justement à l'occasion de cette exposition universelle en 1931, exposition coloniale, pardon, c'est pas une exposition universelle. Et là, ce sont des champs d'accueil de femmes. S'ils avaient pu se contenter de faire juste des enregistrements, ça aurait été vachement sympa. Je vais pas me lancer dans la lecture du titre. On va dire que c'est un chant d'accueil, en tout cas avec des hommes et des femmes en chœur. Des Kanaks, je crois qu'ils sont de l'île de Lifou. Exactement.
Jihu, en anglais.
Pardon ?
Jihu, je crois que ça se dit.
Jihu, ah d'accord.
Pour la prononciation, okay. Je sais pas. Mais...
Ok, donc je veux vraiment pas me lancer dans le titre. Là, parce...
C'est dur, la prononciation.
Alors, on va parler un peu plus maintenant du référendum qui va donc avoir lieu, c'est ce week-end qui va y avoir lieu le référendum. Mais pourquoi ce référendum ? J'aimerais déjà qu'on parle un peu de la naissance, un peu de ce mouvement indépendantiste. On a parlé vite fait d'une petite révolte en 1878, mais la vraie naissance du mouvement indépendantiste, c'est plus dans les années à partir de 68, on peut dire ça.
68, c'est une date très importante, ouais. Ouais. C'est une date très importante pour les étudiants, justement, en ville, qui vont s'en prendre plein la gueule politiquement, ils vont découvrir un vrai mouvement insurrectionnel, etc., de rebelles. Et du coup, ça va les inspirer. Ça commence. En fait, la lutte, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de point de départ. C'est effectivement le chef Attaï que tu as mentionné, la fin 19e, très très grand moment. À tel point que les Occidentaux ont conservé la tête d'Attaï. Je ne sais pas si tu vois cette histoire. Tellement ils se sont dit, mais c'est impossible que. Enfin, c'est très anormal que ces sauvages aient pu être aussi intelligents, avoir des discours, avoir des stratégies aussi fortes. Donc, c'est anormal. Donc, on va étudier son crâne, en fait.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Le crâne a été rendu il y a 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça.
D'accord. Ah oui, ça me parle.
Et donc la lutte, effectivement, elle se réactive en fait régulièrement, quoi. Hein. C'est ça. C'est que souvent ils plongent dans notamment l'alcool importé exprès pour les acculturés aussi. Ils sont un peu au fond et puis en fait, paf, ça se relève et puis même s'ils perdent, ben, en fait, ils se sont relevés et la culture est revenue. Est-ce que tu parlais de Mélanésia 2000, je crois que ça s'appelait comme ça, au début de l'émission ?
C'est ce qu'on a diffusé, ouais. Oui. C'était justement
Jean-Marie Tchibaou qui parle. C'était justement un grand moment de dire, voilà, il faut faire ressurgir pas seulement la lutte, mais le fond de la lutte, c'est-à-dire la forme de vie, qui est la nôtre, notre culture, etc. Et c'est ça qui est très important, c'est que régulièrement, il y a des cycles comme ça où ça revient, où on pense que c'est perdu, mais en fait, ça revient.
Et là, en mai 68, donc c'est des étudiants Kanak qui étudiaient à Paris, donc qui se sont retrouvés au cœur de mai 68 et qui ont appris de cette lutte, qui ont pu structurer du coup leur lutte pour la Nouvelle-Calédonie.
Oui.
C'est ça qui s'est passé en fait. Ils sont retournés en Nouvelle-Calédonie.
Exactement. Et ils sont retournés en Nouvelle-Calédonie, ils se sont dit ben, on va faire des collectifs. Donc les foulards rouges et puis je sais plus l'autre, pardonnez-moi. Il y en a eu plein. Il y en avait deux principaux dont je. Donc,
groupe 1878.
Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et ça, c'est des collectifs. Alors, moi, je connais mal hein, l'histoire. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en 68. C'est ce que j'ai compris récemment, en fait, avec la tournée, notamment, et la tournée qu'on fait du film, avec des cercles politisés en France aussi, Kanak, etc. Et ce que j'ai cru comprendre, mais c'est encore à travailler, c'est qu'en 68, certes, ça leur a donné le goût de la révolte, disons. Et puis, c'était mondial, hein, 68, c'était partout, c'était pas qu'en France. Y compris les luttes autochtones et tout ça. Mais ça les a aussi un peu divisés, j'ai l'impression. Entre justement.
Excuse-moi. Ah. Vas-y.
Et ça les a peut-être un peu. C'est une hypothèse. Hein. Ça les a peut-être un peu divisés entre justement ceux qui. Parce que c'est très. De fait, en fait, la colonisation a fait que le syncrétisme chrétien et animiste, finalement, là-bas, c'est très fort. Tchibaou, c'était un prêtre. Il avait une formation de séminaire. Et puis, pas que lui, dans le mouvement, il y en avait plein. Qui étaient issus des séminaires protestants ou catholiques. Et du coup, j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, que Tchibaou est souvent considéré comme un curé, quoi, un soutane. Quoi. Et ça colle moins, j'ai l'impression, avec le discours plus politique, en tout cas que peuvent avoir certains indépendantistes, même si, par exemple, le leader actuel qui est Ouamitan est très chrétien, il fait des messes, il fait des prières pendant les discours et tout ça. Et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas clair, cette histoire. Et j'ai l'impression que c'est pas clair non plus en France. Et que peut-être qu'en 68, il s'est passé quelque chose qui a peut-être divisé les gens d'une certaine manière. Quoi. Par exemple, ceux qui sont restés catholiques peuvent être de gauche ou même anarchistes, mais sont mal vus en France, généralement, depuis ce temps-là, en fait. Surtout depuis 68. Et ça, c'est intéressant, je pense, comme piste à creuser. Mais bon, on s'éloigne du sujet, je crois.
Ouais, et ensuite...
Il y a Mélanésia 2000, il y a des occupations, ouais. Il y a des marches, il y a des occupations de lieux caldoches.
Ouais. Mélanésia 2000, c'est culturel, en fait. C'est un festival, ouais. C'est ça ouais. Donc, ouais. Organisé justement par Jean-Marie Tsibaou.
Voilà, alors si on veut raconter un peu rapidement et grossièrement, disons qu'il y aura l'aile Tsibaou qui était plus justement curé, soutane, envers la culture, le discours, la forme de vie et tout ça, et le côté plus marxiste, vraiment insurrectionnel, qui était plutôt la branche Machoro, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais qui, elle, était vraiment pour l'action directe. Et pour l'occupation des fermes, pour la réappropriation de certaines fermes symboliquement, mais que ça soit médiatisé. Et lui, il s'est fait assassiner par le GIGN parce qu'il devenait vraiment trop gênant, quoi. Il était trop dans l'illégalité, le truc. Et il y en a beaucoup qui sont fait assassiner. Ils sont à peu près tous fait assassiner, de toute façon, de cette génération-là. Mais les deux ensemble, malgré tout, le côté Tsibaou et le côté Machoro, ont fait que, à un moment donné, la France avait plutôt d'autres choix que de négocier, en fait.
Ouais, parce que là, on arrive dans les années 80, à ce moment, le paroxysme quoi, entre 84 et 88 à peu près et ça finit avec une prise d'otage d'Ouvéa, c'est ça, c'est un peu
ça conclut la période ouais. Alors oui
et avec, qui déclenche des accords, des premiers accords derrière,
c'est ça qui est complexe avec cette histoire, c'est que donc Alphonse Diano et ses amis, enfin son groupe vont occuper une gendarmerie, puis ça dégénère, vous connaissez peut-être l'histoire. Et du coup, ils voulaient juste occuper la gendarmerie. Il y avait des actions qui étaient censées être faites dans tout le pays, dont on parle très peu, en fait. C'est parce qu'il y a eu des choses qui sont faites à Wawilou, je crois, ou dans d'autres endroits, où les gens allaient voir la gendarmerie, mais symboliquement, pour dire, voilà, on veut enlever... Je ne sais plus ce que c'était exactement, je ne saurais pas être dans les détails, mais il y avait une action, mais qui n'était pas du tout censée être violente. Et Alphonse Diano, qui était peut-être un peu exalté aussi. Il y a aussi des trucs avec la Libye qui sont pas clairs, dont je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu aussi des idées comme ça d'action directe vraiment de ce genre, et de sabotage, etc. Et du coup, ça a dégénéré, il y a eu un mort ou deux, je ne sais plus, gendarmes. Et du coup, ben là, c'était fini, c'était fichu, et donc ils ont pris des otages de la gendarmerie, et ils sont allés se réfugier dans une grotte. La grotte a été révélée à un moment donné. Tout le monde s'est... Je pense que c'était inévitable. Tous les partis politiques, tous les collectifs et les assos se sont désolidarisés immédiatement et ont réprouvé cet acte de violence. Et donc la violence, à ce moment-là, effectivement, a été condamnée par tout le monde. Français, institutions, etc., etc. Mais néanmoins, c'est ça le paradoxe. C'est que c'est précisément cette violence finale qui a fait que, au bout d'un moment, les gens se sont dit « Bon, allez, on arrête ». Ça pose la question de la culture française aussi. Quoi. C'est que la culture française, qui fonctionne beaucoup par le déni, Elle nie, elle n'entend pas. Puis à un moment donné, il y a 15 000 personnes qui saccagent le rond-point de, des Champs-Élysées. Et on dit que bah, ils sont méchants. Et c'est malheureux, mais la violence en France, c'est l'aboutissement d'une situation de conflit, en fait, souvent. Et c'est après qu'on négocie. On se tape dessus, on fait saigner, on abreuve les sillons, hein, comme dans la chanson. Et puis après, on cause.
Bon, on aime bien les débats stériles. Ouais. On gueule chacun de notre côté. Ça mène à rien. Si, ça mène à ça, quoi.
À verser le sang.
Et du coup, ça s'est déclenché super vite, les premiers accords. À Matignon, ça s'appelle les accords de Matignon-Oudinot, ouais. En 88, en mai, hein, donc 3-4 mois après la prise d'otage, quoi.
C'est ça. En plus, en pleines élections. C'était les élections, donc c'était médiatisé à mort. C'était vraiment, il y avait des enjeux pas possibles. Donc là, Rocard, qui a été élu, je sais plus quel était son rôle exactement. Son titre, quoi. Mais il était chargé effectivement de prendre les deux partis, donc les loyalistes représentés par Jacques Lafleur, bon, un mafieux notoire, hein, à part ça, qui a été détricoté. Donc il y a quelqu'un qui représente les loyalistes aujourd'hui qui s'appelle Philippe Gomez, qu'on peut au moins lui accorder, je pense qu'on peut lui accorder plusieurs choses, mais aussi lui accorder le fait qu'il a détricoté le système mafieux un peu de ce personnage, Jacques Lafleur, et Tshibaou qui était symboliquement choisi pour serrer la main et tout ça, mais il y avait une délégation. Tshibaou raconte que quand ils sont arrivés, lui, il s'attendait pas du tout à ce que ça soit des accords. Il pensait que ça allait juste une rencontre pour réfléchir, à négocier, tout ça et tout ça. Or, Rocard les a enfermés Il les a enfermés dans la pièce et il a dit on ne sort pas d'ici tant que les accords sont pas signés. Et il y avait des flics. Hein.
Mais du coup, s'il n'était pas au courant, il n'était pas préparé.
Non, ils n'étaient pas préparés, non. Enfin, ils étaient préparés d'une certaine manière, puisque c'était les négociations qui étaient en ligne de course. Okay. Mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'il fallait signer les accords là.
Okay.
Donc ça a pris 3 jours. Où ils ont très peu dormi et ils ont à la fin signé les accords en disant maintenant c'est comme tu dis en fait il fallait le torcher quoi. L'objectif c'était que ce soit fini cette histoire.
Okay.
Et du coup ben ils ont été fait les accords, la fameuse photo où il se serre la main. Certains disent qu'il a serré la main du diable. On verra. les gens sont pas forcément voilà. Après les Kanaks c'est pas homogène. Hein. Nous on a fait un film où on a été pas mal critiqué sur le côté que c'était pas une représentation de la majorité des Kanaks, que c'était une représentation minorité des Kanaks, donc plutôt le monde coutumier, plutôt le monde des chefs, en tout cas de certaines chefferies, etc. Mais même dans la politique c'est très divisé en fait, il n'existe pas en fait de point de vue majoritaire réellement en fait en Kanaky. Alors après est-ce qu'on peut parler d'un point de vue institutionnel? Oui, il y a des gens qui sont aux pilotes, qui sont aux mains des institutions qui continuent donc ces accords. Mais est-ce qu'il représente la majorité des Kanaks? Il y a des votes. Est-ce que Macron représente la majorité des Français, par exemple? On pourrait se poser la même question chez nous. Voilà, c'est un peu la même question là-bas.
Et qu'est-ce qui découle de ces accords, l'idée d'un référendum? Enfin, c'est même plus une idée, puisque c'est un accord.
Alors en fait, l'accord, c'est 10 ans. Il y a plein de choses, hein, mais grosso modo, par rapport au référendum, ils disent dans 10 ans, on décolonise. Donc en 98. Or, en 98, les Français, comme les institutions kanaks qui sont en train de se constituer, disent les deux « Ah, en fait, on n'est pas prêt. Rendez-vous dans 30 ans. » Et ça, c'est les accords de Nouméa. Rendez-vous dans 30 ans et on fait un référendum, même si vous êtes... C'est ça un peu qui est tordu, quand même. C'est que rendez-vous dans 30 ans, mais en attendant, le plan Mesmer, il continue.
Okay.
La colonie de peuplement, elle continue. Et donc, en 98, ils disent « Bon, bah, rendez-vous dans 30 ans, mais on gèle le corps électoral. » À partir justement des accords qui sont signés 10 ans après.
Okay.
Et ça laisse le... Non mais en fait c'est vrai que stratégiquement pour les Kanaks, ce qui les intéressait eux, c'était en 30 ans de faire des nouvelles générations en fait. Et c'est un enjeu actuel, c'est-à-dire que la jeunesse aussi est quand même assez nombreuse. Et du coup elle vote de plus en plus. Alors que le corps électoral est gelé depuis 98. Donc c'est quand même un avantage qu'on leur a donné, une concession qu'on leur a donnée face au plan Mesmer en fait.
Ok.
Mais c'est complexe, hein, c'est compliqué. Et donc, il y en a 3. Là, on est au deuxième, donc, qui va avoir lieu dimanche.
Et ouais, parce qu'il y a eu donc un premier référendum en 2018,
ouais.
Où la réponse a été non à 56%, ou alors qu'ils s'attendaient à pas du tout ce résultat-là. C'était quand même une surprise, dans le bon sens, on va dire.
Ouais, dans le film, on voit qu'ils parlent de 70% de non. Hein.
Et donc là, en cas de non dans les accords, il était stipulé qu'on pouvait faire un deuxième référendum si le congrès de Nouvelle-Calédonie votait pour. C'est ce qui s'est passé.
Et un troisième.
Et un troisième éventuellement aussi.
Voilà. Mais le problème, c'est que si c'est toujours non au troisième. Voilà, alors là, il n'y a plus de sondage, en fait, plus personne ne se prononce sur rien du tout. On ne sait pas, en fait, quel va être le chiffre. J'ai discuté avec les indépendantistes à ce sujet, enfin, avec un indépendantiste à ce sujet, qui disait, vivant en France, qui disait ce qu'on vise, en fait, ce que le FLN KS vise, c'est le 50%. C'était d'arriver à 48-49, arriver vraiment à la lisière de la chose. Pour. En fait, ce que j'ai compris, finalement, de ce référendum, c'est que le oui ou le non. C'est le plus important à retenir, je pense, dans tout ça, c'est quel va être le rapport de force dans les négociations. Parce qu'au bout du compte, après le troisième référendum, de toute façon, la question reste entière. C'est-à-dire, on doit décoloniser la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est l'accord de base. Nous allons trouver un moyen de décoloniser la Nouvelle-Calédonie. Oui, comme nous avons fait dans les pays africains, comme nous avons fait dans plein de colonies. Nous allons le faire. L'ONU a enregistré la proposition et donc le pays est sur la liste des pays à décoloniser. Dans les institutions mondiales, la Nouvelle-Calédonie doit être décolonisée. Donc, à l'issue des troisième référendums, il y aura quelque chose qui va se passer. Et donc, en fait, le vote est là pour imposer un rapport de force. S'ils avaient perdu à 30%, mais s'ils arrivent à 48-49, le rapport de force sera pas pareil. Après, moi, j'ai presque une question ou un doute. Je me demande même s'ils ont pas peur que ça soit 51%. Mais bon, ça, c'est une provocation.
Parce que si c'est oui... C'est il y a un vote d'une constitution pour la Nouvelle-Calédonie, avec une période de transition quand même. C'est déjà noté dans les accords, en fait. Ça va pas se faire du jour au lendemain.
Je pense que si c'est le oui, ce que je souhaite personnellement moi-même, et que je pense que la plupart des Kanaks souhaitent, au fond, c'est vrai que ça fait un peu... Il y a des doutes, il y a des questions, ça, peut-être ça fait un peu peur à beaucoup de gens, en fait. Bah, évidemment, aux Blancs, aux Occidentaux qui vivent là-bas, bien sûr. Surtout les fonctionnaires, etc. Mais je pense les Kanaks aussi. Puis moi, si j'étais là-bas, je pense qu'évidemment aussi, j'aurais un peu peur de l'inconnu, quoi. Je pense que c'est tout à fait normal, en fait. Mais là, on rentre dans des zones où moi, je ne pourrais plus me prononcer, en fait. Je pense que là, je ne suis pas qualifié. Ce serait eux qui devraient parler, là.
Ouais, d'accord. Et puis là, on est sur le sujet brûlant. Ouais. On peut quand même en dire quelques mots... moi j'ai l'impression dans les débats que ça tourne beaucoup autour des questions d'argent. Qu'est-ce qui se passe si on dit la France est plus là pour nous donner plein de sous est-ce que c'est vraiment que ça le débat, enfin, l'enjeu il va pas au-delà de ça quand même?
Malheureusement c'est un peu ça le comment dire. C'est un peu ça qu'on aurait pu remarquer quand on a été tourner ce film pendant 3 mois, pendant le premier référendum, dont la campagne était très longue. Elle a commencé longtemps avant. Là, la campagne est très petite. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux que j'ai l'impression que les discours, les meetings utilisent 2-3 enjeux, mais un peu comme façade. Et qu'au fond, les enjeux sont très profonds et existentiels, réellement, en fait, là-bas. C'est-à-dire la forme de vie occidentale, la forme de vie océanienne, la forme de vie kanak, elles sont tellement diamétralement opposées, donc comment les concilier? Est-ce qu'il y a une asymétrie? Est-ce que les kanaks sont tous d'accord pour conserver leur tradition ou pas? Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Et là, moi, encore une fois, je préfère donner D'ailleurs, vous pouvez venir les interroger ce week-end.
C'est tout l'intérêt de samedi. Il va y avoir plein de discussions, voilà. Des ateliers. Bah, écoute, maintenant, on va en parler. On a déjà pas mal discuté, là. Je crois qu'on a déjà fait pas mal de tours. Donc, samedi... vas-y, je te laisse la parole.
Samedi, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que différentes personnes devaient organiser... des Kanaks vivant en France devaient organiser un événement en Dordogne fin août, mais le village ou la ville dans lequel c'était, il y a eu un arrêté municipal anti-Covid de pas plus de 15 personnes en privé, ce qui a eu comme effet d'annuler directement l'événement. Et quand on a appris ça, donc ça c'est les gens avec qui on est en lien aussi pour la tournée du film, etc., on leur a dit pourquoi vous faites pas sur le plateau de Mille Vaches, on a des lieux d'accueil, etc., la ferme du Goutaillou par exemple. Et ils ont dit pourquoi pas, mais ils ont annulé quand même l'événement. Et puis finalement, il y a 3-4 semaines, finalement, on s'est dit ok, on tente. Et du coup, ils vont venir à une quarantaine. C'est plutôt la jeunesse, plutôt les étudiants en fait qui sont convoqués, avec une journée de réflexion. Alors donc on monte le film le matin. En l'après-midi, il y a une discussion autour d'une question simple qui est comment vois-tu ton pays dans le futur? Et l'idée étant parce qu'il y a des amis, un ou plusieurs amis syriens qui viennent, des Soudanais qui sont sur le plateau, nous-mêmes, par rapport à nos problèmes à nous, d'extractivisme autour de la forêt, etc. etc. Du coup, l'idée, c'est de partager cette question à plusieurs peuples. Il y a aussi des Guyanais qui viennent, 5-6. Et donc, de partager cette question avec plusieurs peuples pour ouvrir ces questions-là sur l'avenir du pays et de sortir de la bulle juste loyaliste, indépendantiste. Je crois que c'est ça qu'ils sont venus aussi créer en venant rapatrier finalement l'événement qui devait avoir lieu fin août ici au Goutaillou. Donc c'est vraiment leur événement. C'est eux qui ont fait le programme. Nous, on est là pour apporter du soutien et participer aux discussions si possible. Et le soir, veillée électorale, où ce sera plus décontracté, où on mangera. Ah oui, il y a des ateliers artistiques aussi l'après-midi. Il y a un sculpteur qui vient faire une flèche fêtière, donc en bois, hein, de 2 mètres. Ça va être chouette, je pense. Et le soir, c'est veillée électorale. On mange un plat traditionnel hein, qui s'appelle le bougna. Et il y aura des concerts. Et puis, on verra les. Donc, vu qu'il y a 9 heures de décalage, les bureaux de vote vont ouvrir à 11 heures du soir pour nous. Le 3.
D'accord.
Et du coup, à partir de 11h du soir, on aura les premières news, les premières ambiances. Espérons que ça se passe bien. Parce que c'est quand même assez tendu aussi. Et voilà. Et puis, ceux qui veulent faire la nuit blanche jusqu'au résultat à 10h du matin, ils peuvent. Mais je pense qu'on ira se coucher et qu'on ira voir les résultats le lendemain matin. Et donc, le lendemain matin, vers 10-11h, je ne sais plus quand, on aura les résultats tous ensemble. Okay. Et l'idée, c'est de passer ce moment ensemble aussi.
Bon bah très bien, donc rendez-vous samedi à la ferme du Goutaillou. Merci beaucoup Florent d'être venu nous présenter cette journée, cette veillée. Je vous propose d'écouter un morceau.
Attends, j'ai oublié juste un détail, c'est que pour participer aux discussions l'après-midi, il faut s'inscrire.
Ah oui, il y a un adresse mail, je vais la rappeler, c'est moinonplus@riseup.net.
Voilà.
Je vais la rappeler après le morceau aussi.
Mais le soir, c'est pour tout le monde.
Un morceau de Kaneka, c'est de la musique... du groupe Buenando.
Ah ouais.
C'était un peu justement un groupe créé pendant le millénium 2000.
Non, ouais. comment Mélanésia 2000.
Pardon, ouais, Mélanésia 2000. Et enfin, en tout cas, on va écouter un morceau de Warawi Wayenese.
Oui, parce qu'en plus, la lettre elle se prononce différemment. Etc.
Aïe. Bon, bref, on écoute de la musique du Kaneka. C'est parti.
Au revoir.
Au revoir, merci Flan.
Pour tous les peuples du Pacifique. bonjour pour tous les peuples du Pacifique. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de Wacom. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de Wacom.